France Inter.
Merci Camille Cronier, à demain. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Achille Akna à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh Zinedine.
Pas ça Zinedine.
Non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe.
Pensais que c'était Trezeguet qui était dans le coup, bah pas du tout, ouais. Hein, parce que ça c'est.
Oh non, Zinedine.
Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire.
Ça
en
peut pas se
il
faire.
Sort un carton, il sort
va
un
sortir
carton,
un carton. Il sort un carton. Zidane.
Non.
Et c'est carton rouge. Oh non. Et voilà ce que je redoutais. C'est épouvantable. C'est pas possible.
Oui, il n'y a même pas lieu de contestation.
Mais non, on peut pas contester. On peut pas contester. Sauf, même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre. Ne doit pas mettre ce coup de tête.
Et voilà, c'était le dimanche 9 juillet 2006 sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin lors de la finale de la 17e Coupe du Monde de football opposant l'équipe de France à celle d'Italie. 107e minute donc de la prolongation et alors que le score était de 1 partout mais que la France prenait de façon indiscutable l'ascendant sur son adversaire épuisé, Zinedine Zidane, le grand, pour des raisons à ce jour encore mal élucidées, qualifia le défenseur italien Marco Materazzi d'un coup de boule qui lui valut d'être expulsé du terrain. Alors que vient donc faire cette histoire dans un essai, dans une émission de philo d'abord, et un essai consacré à l'hérésie. Êtes-vous en droit de vous demander? Son auteur, Denis Moreau, est assis en face de moi. J'en profite donc pour lui poser la question. Mais d'abord, je voudrais savoir, Denis Moreau, si vous êtes remis de la défaite de la France, puisque du coup la France a perdu. Et est-ce que vos enfants ont cessé de pleurer, puisque c'est ce que vous racontez dans votre
Alors essai. Ce fut une soirée très difficile, effectivement. Je dus consoler le grand chagrin de mes enfants jusque tard dans la nuit. Alors nous nous sommes remis, oui, puisque en 2018, la France a de nouveau gagné la Coupe du Monde. Donc ça nous a apporté du baume au cœur, mais enfin, comme l'ont dit les commentateurs, c'était épouvantable.
Hein. En l'occurrence, là, Thierry Gilardi, dont vous auriez pu prendre la place. Hein.
Ah oui, j'étais dans un état de terrible. Et alors, alors quel rapport avec les hérésies?
Bah justement, alors, parce que je n'ai pas encore dit, oui. Mais que les auditeurs quand même comprennent pourquoi vous êtes là. Vous publiez un essai qui est au seuil, « Tous hérétiques, point d'interrogation, sur l'actualité de quelques débats chrétiens ». Alors, en quoi est-ce que ce match dont on parle est une hérésie?
Ce n'est pas une hérésie.
Ma
thèse, c'est que nous sommes en train de recycler les vieilles hérésies chrétiennes, ouais, que la modernité recycle sous forme sécularisée des débats qui ont déjà eu lieu à ce sujet-là. Et donc, là, en fait, l'exemple de Zidane, alors avec le sourire, mais c'est pas parce qu'on fait de la philo qu'il faut s'interdire de sourire un petit peu.
Je suis
donc,
tout à fait d'accord.
Je me suis permis de faire quelques blagues dans ce livre. Ça me sert à exemplifier l'hérésie qu'on appelle le pélagianisme. Donc, le pélagianisme, alors
on va expliquer ce que c'est.
Pour c'est des gens qui nient le péché originel. Voilà, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève dans la Genèse, à qui on interdit de faire quelque chose, qu'ils le font et qu'ils sont expulsés du paradis. C'est un mythe, bien entendu, je lis ça comme un mythe, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais c'est un mythe, ça donne à penser. Donc qu'est-ce que ça raconte l'histoire d'Adam et Ève? Ça raconte l'histoire, vous, c'est un petit couple. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ça va bien, on les met au paradis, ça devrait être merveilleux. Et ils se débrouillent pour que ça dégénère, pour que les choses se passent mal. Et alors ça me parle. Quand j'en parle avec mes étudiants, je crois qu'ils comprennent aussi très bien de quoi il s'agit. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, cette espèce de capacité absolument sombre et pénible que nous avons à faire dégénérer les bons moments de nos vies, à compliquer les situations qui s'annoncent heureuses, etc. Et ça, je l'ai retrouvé chez Zidane. Zidane, il était aux portes du paradis, tout allait bien, ça allait sans doute devenir le plus grand joueur de l'histoire du football au moins français. Et tac, il fait ce qu'il ne faut pas faire, il est expulsé, et alors de façon frappante pour moi, je ne sais pas si les, nos auditeurs ont les images en tête de, du désespoir de Zidane en train de prendre la tête en disant « mais quel imbécile j'ai été ». Et c'est exactement, alors on trouve ça à Florence, il y a un peintre qui s'appelle Masaccio qui a représenté l'expulsion d'Adam et Ève du paradis terrestre, et Adam et Ève ont exactement les mêmes attitudes que Zidane ce soir-là.
Mais ce qui est passionnant, parce que votre essai vraiment il est passionnant, c'est, très honnêtement ce n'est pas un sujet qui m'attirait particulièrement en un premier temps, et Chantal Le Montagnier, qui est notre vigie, m'a dit « Lisa, tu vas voir, c'est formidable ». Et oui, ça l'est. Et on se rend compte à quel point l'hérésie, c'est un excellent aiguillon pour l'esprit. Ça nous titille, ça nous oblige à réfléchir, c'est un aliment pour l'esprit.
Les hérétiques sont très souvent loin d'être des imbéciles. Hein. C'est des gens alors, qui ont prétendu réfléchir. Alors, moi, je me suis intéressé aux hérésies chrétiennes, donc ont prétendu réfléchir sur la foi chrétienne. Peut-être ce qu'on peut dire, vous voyez, c'est une hérésie, c'est pas une erreur au sens où de plus 2 font 5, c'est une erreur. Mais ça l'a toujours été, c'était faux il y a 5000 ans, c'est faux ouais. À Pékin aujourd'hui. Une hérésie, c'est une thèse qui, à un moment donné, a prétendu à la vérité, et puis qui a été... Alors, si on veut prendre une analogie, vous voyez, c'est un petit peu comme dans un parti politique, quand il y a des motions qui s'affrontent, il y a un combat entre motions, puis à la fin du congrès, il y en a une qui est minoritaire, et une qui l'emporte. Les hérétiques, c'est les perdants des débats qui ont agité le christianisme.
Mais d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, il y a un député qui récemment a dit que la taxe Zucman, c'était une hérésie. Donc comme quoi, il y a un emploi aussi très, très moderne.
Alors c'est devenu synonyme de dissidence, voilà. On va dire. Oui,
alors il se trouve que dans cette émission quelque peu hétéroclite, nous allons aussi parler de quelqu'un qui n'est pas forcément très connu. C'est Antonio Gramsci, philosophe, écrivain, théoricien politique, membre fondateur du Parti communiste italien. Il est mort en 1937 et dont l'ensemble des écrits est traversé par une réflexion sur la religion. Marie-Luca, vous avez écrit votre thèse de doctorat sur Gramsci, une thèse intitulée « Religion et hérésie au pluriel dans la pensée » d'Antonio Gramsci, donc c'est publié chez Classique Garnier. Il faut préciser que Gramsci était athée, sarde, donc citoyen, on va dire, d'un pays où la seule chose vraiment historique, c'est le pape. Alors qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé aux hérésies de Gramsci ?
Alors, j'ai commencé à lire Gramsci pour de toute autre raison, parce que c'était un brillant marxiste, connu comme un des plus grands marxistes du XXe siècle. Mm-hmm. J'ai été frappée, en commençant à feuilleter ses cahiers de prison, de l'omniprésence du problème religieux.
Ses cahiers de prison, parce qu'il a essentiellement écrit en étant en prison
Tout à fait.
Une partie de sa vie.
Tout à fait. L'essentiel de son œuvre, ce sont des petits cahiers d'écoliers, les seuls supports qu'on lui laissait dans sa prison.
C'est Mussolini qui l'a fait emprisonner. Hein,
absolument.
Malgré l'immunité parlementaire dont Gramsci aurait dû bénéficier.
Exactement. Il a arrêté en 1926 et presque jusqu'à sa mort, jusqu'à ses dernières années de vie, il écrit depuis sa prison. Il commence à écrire en 1929, au lendemain des accords du Latran, c'est-à-dire des accords entre l'Église catholique et le régime fasciste, avec une interrogation de fond qui traverse vraiment toute sa pensée, c'est qu'est-ce qui peut prendre le relais en Italie de ce qu'a représenté l'Église catholique pour l'Occident, pour le monde.
Ouais.
Et pour lui, et sa manière de penser le communisme en dialogue avec cette expérience séculière de l'Église, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée.
Et lui-même, c'était un fin connaisseur du christianisme. Hein.
Absolument, un très fin connaisseur, en partie par son expérience de sarde, donc il a plein de souvenirs un peu, on pourrait dire, folkloriques de la vie religieuse de son village de Sardaigne, mais aussi par une lecture intense, on pourrait dire, de toutes les revues, en particulier la revue des Jésuites, qui était une revue très éminente dans les années où il écrit.
Ouais.
Et un autre fil de sa réflexion, il y a d'une part cette étude des rapports de force, des différents courants doctrinaux qui s'affrontent à ce moment-là dans l'Église catholique, dans les élites catholiques. Un autre fil de sa réflexion, donc, c'est ce qu'il appelle des ferments, et les ferments hérétiques. Donc ces courants populaires qui traversent toute l'histoire du christianisme et, de manière parfois contradictoire, parfois grossière, parfois plus sophistiquée, expriment, de son point de vue, des aspirations que la hiérarchie catholique ne sait pas prendre en compte. Et donc, pour lui, le christianisme, c'est l'histoire de ce rapport entre clercs et hérétiques. Et les grands moments du christianisme, pour lui, ça s'arrête avec la contre-réforme, les grands moments du christianisme, c'est ceux où l'institution a été capable d'assimiler cette demande de renouveau portée par les hérétiques.
Et vous, Denis Moreau, vous évoquez Gramsci dans votre ouvrage.
Oui, alors moi, je le connais beaucoup moins bien que Marie-Luca, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Je l'ai un petit peu lu il y a longtemps, quand j'étais étudiant. Pour moi, c'est un marxiste fin. Voilà, il y a par opposition aux marxistes un peu moins fins, on va dire, que j'ai pu connaître dans ma jeunesse, et qui étaient déjà parfois très, très dogmatiques, mais je trouve qu'il y a chez Gramsci un sens de la nuance, de la complexité des choses qui me le rend assez attachant. Et alors, m'intéressant aux hérésies, j'ai aussi été frappé, en lisant le livre de Marie Lucas, par la bonne connaissance qu'il a de la religion et du sujet. Donc voilà, c'est quand il parle de religion, c'est pas caricatural, c'est informé, et il le fait toujours, oui, avec une forme de nuance dans l'analyse qui me semble intéressante et assez originale dans la tradition marxiste. Oui.
Frère Sylvain, les hérésies, ce n'est pas ce qu'on imagine. Pour beaucoup, une hérésie, c'est une erreur. Une erreur plus ou moins choquante, comme lorsqu'on dit oh, « boire du vin blanc sur une viande rouge, quelle hérésie !» Dans le langage de l'Église, une hérésie, c'est plus grave et plus dangereux qu'une erreur. L'Église combat les hérésies comme des mensonges toxiques. Pourquoi ? Est-ce parce que l'Église craint ceux qui ne pensent pas comme elle ? Une erreur, c'est une défaillance de l'intelligence. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. L'hérésie n'est pas une simple erreur. Elle implique un choix, une préférence. C'est d'ailleurs l'un des sens du mot grec aérésis, faire un choix. Or, un choix, c'est avec la volonté qu'on le fait. Avec une hérésie, ce n'est pas tant l'intelligence qui est concernée que la volonté. Je fais une erreur, c'est pas grave. Mais si je m'obstine dans cette erreur, alors que l'Église me met en garde, mon erreur pourrait devenir une hérésie.
Alors, l'histoire du vin blanc sur de la viande rouge, une hérésie, ça se discute. Vous êtes d'accord, Denis Moreau ?
C'est un sens très large du concept d'hérésie, oui.
On est bien d'accord, mais on peut... D'abord, ça n'est pas forcément une. Mais ça vient d'un terme grec, hérésie,
oui,
qui veut dire choisir.
Oui,
en fait.
C'est pour ça que, alors, on vient d'entendre le point de vue... Je ne sais pas qui est frère Sylvain, mais on vient d'entendre le point de vue officiel de l'Église catholique... peu rigide, on va dire. En grec, hérésie, c'est pas un mot péjoratif, hein, ça veut dire choix ou préférence, donc et puis c'est devenu, par là, choix ou préférence intellectuelle, et puis courant de pensée, voilà, et puis après, le mot s'est péjoré, notamment chez les écrivains chrétiens, et c'est donc devenu le synonyme de choix erroné et fait de façon persistante, c'est ce que disait frère Sylvain. Quand il a dit que c'était un poison, et tout ça, non, pour moi, c'est... Non, enfin... Après, je m'en cache pas, on est en contexte marxiste avec Gramsci, les marxistes demandent toujours d'où tu parles, donc moi d'où je parle, je suis catholique, je m'en suis jamais caché, mais moi j'aime bien les hérésies, oui, travailler sur les hérésies, ça m'a fait réfléchir à ma foi, je trouvais que c'était, comme vous l'avez dit, des aiguillons intéressants. Alors, on peut toujours prendre un point de vue un peu providentialiste, on dit les hérésies, c'est le petit poison que Dieu envoie pour faire triompher la vérité, ce genre de choses, mais plus simplement, je dirais, les hérésies sont des idées, souvent de bonnes idées, pas jusqu'au bout, il y a aussi un certain nombre d'entre elles qui sont très contestables, mais ce sont des idées qui nous font réfléchir, et à nouveau, vous voyez, on va citer Marx, la tradition, c'est dans la préface du 18 Brumaire, Marx écrit « La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants ». C'est un peu ça que j'ai voulu expliquer dans mon livre, c'est que ces vieilles idées, loin d'être passées au poubelles de l'histoire de la pensée, sont encore présentes et agissantes en nos esprits. Alors ce en quoi je me sépare peut-être un tout petit peu de Gramsci, pour qui les hérésies, ça a été dit tout à l'heure, ce sont des idées mais très inabouties et qu'il appartient aux marxistes de pousser à la clarté.
Marie Lucas, ouais, sourit, hein, pour que vous parlez, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord.
Et Gramsci l'aurait été aussi ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne pouviez pas finalement deviner chez Gramsci en travaillant autant sur lui ? Parce que quand même, là, vous l'avez vraiment décortiqué de A à Z.
Ce qui m'a surprise et beaucoup intéressée dans sa démarche d'étude des hérétiques, c'est une démarche, on pourrait dire, assez différente, en un sens complémentaire de celle que propose Denis Moreau. C'est une approche non plus centrée sur les courants doctrinaux, il ne propose pas une comparaison entre des courants doctrinaux, mais il essaie de déceler, et sur ce point, sa démarche rejoint celle de Denis Moreau, il essaie de déceler dans les sédimentations, on nomme aujourd'hui hérétiques, les sédimentations, les courants de pensée dissidents vis-à-vis de l'orthodoxie catholique, les germes d'une tradition alternative à celle du catholicisme officiel. Cette manière de penser son marxisme, non pas comme une doctrine hors sol qui arriverait en Italie et se substituerait radicalement aux doctrines préexistantes. L'idée, c'est qu'il y a une tradition, et pour Gramsci, le mot tradition n'est pas positif que chez le boulanger.
Vous dites ça à cause des baguettes, tradition, voilà. Qui n'existait peut-être pas au début du...
Denis Moreau fait remarquer justement que le mot tradition est un mot qui parfois, notamment à gauche, peut être connoté péjorativement. Chez Gramsci, ce n'est pas le cas, à condition qu'on dise quelle tradition. Ça veut dire qu'il y a, pour lui, celui qui détient l'interprétation juste de la tradition et celui qui est au pouvoir. Et donc la question, c'est d'être la force politique, idéologique, qui réussit à interpréter l'histoire d'une manière progressiste, d'une manière qui soit satisfaisante et universelle.
Marie-Lucas, Denis Moreau, vous êtes donc les invités de leur philo. Marie-Lucas, Religion et hérésie dans la pensée d'Antonio Gramsci, c'est chez Classique Garnier. Denis Moreau, Tous hérétiques, point d'interrogation, sur l'actualité de quelques débats chrétiens, c'est aux éditions du Seuil.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables, chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soigne et guérit,
la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Champagne, c'était Jacques Higelin, ça fait toujours plaisir d'entendre cette chanson. Tout à l'heure, nous l'avons un peu évoqué, Pélage contre Saint-Augustin, qui au moment de l'histoire n'était pas encore Saint-Augustin, mais Augustin d'Hippone, explication avec Michel Onfray.
Augustin, c'est un personnage qu'il faut comprendre comme un homme. C'est un saint, il a donc été sanctifié, mais c'est aussi un homme, avec ce qu'il a pu être. Dans une biographie tout à fait particulière, on connaît bien maintenant la vie de Saint-Augustin, et c'est un personnage extrêmement carriériste, extrêmement opportuniste, autoritaire, violent, ambitieux. Mon vieux maître Lucien Gerfagnon disait que c'était un boursier aux dents longues. C'était quelqu'un qui effectivement avait connu la promotion et avait fait tout ce qu'il fallait pour connaître cette promotion. Et comme vous le voyez, dans le portrait que je vous fais du christianisme naissant, il y a vraiment des possibilités diverses et multiples et très contradictoires. Je ne vais pas dire qu'il y a autant de christianisme qu'il y a de chrétiens, mais presque. Il y a un personnage extrêmement intéressant qui s'appelle Pélage. Et Pélage, contemporain, hein, évidemment, 4e, 5e siècle de notre ère, Pélage, lui, est un moine britannique qui dit des choses extrêmement intéressantes. Et on peut imaginer que si Augustin est perdu, et si Pélage avait gagné, nous ne serions pas dans la même civilisation, bien que nous serions tout de même dans une civilisation judéo-chrétienne. Sauf que Pélage était un homme digne, qui n'a pas utilisé les arguments de Saint-Augustin, qui lui était d'une extrême violence, et on le sait dans l'histoire, la violence, même quand elle a tort, a souvent raison de la non-violence, surtout quand elle a raison.
Saint-Augustin, boursier aux dents longues, pour reprendre les propos de Michel Onfray, vous allez nous dire, Denis Moreau, si vous êtes d'accord avec ça. Mais en tout cas, pour Saint-Augustin, pour qu'on comprenne un peu le duel, là, les hommes ont besoin de Dieu et de sa grâce pour se sauver. Et de l'autre côté, Pélage, donc l'homme qui pensait que l'homme peut s'appuyer, au fond, sur son libre arbitre et sa volonté de bien agir. C'est ça,
voilà, grosso modo. C'est ça, le débat, vous venez très bien de le synthétiser. Pas très gentil, le portrait de Saint-Augustin que fait Michel Onfray. Je retiendrai surtout...
Défendez Saint-Augustin.
Non, je pense oui, je pense que c'est un personnage au caractère assez ombrageux et sombre, ça c'est sûr. C'est aussi quelqu'un qui a vécu, comme on dit, hein, qui, avant de se convertir au christianisme, a connu les orgies carthaginoises, qui a passé par de nombreuses étapes. Et alors, effectivement, là où je suis tout à fait d'accord avec Michel Onfray, c'est quand il dit que la victoire de Saint-Augustin sur Pélage, donc dans les débats qu'ils ont posés, engage l'histoire de l'Occident par la suite. Ça c'est vrai, ça l'engage dans une pente assez sombre. Alors le débat, vous l'avez rappelé, c'est pas très compliqué si on veut synthétiser. La vie c'est difficile, point de départ, ça je pense que tout le monde sera d'accord. Et puis on essaie de s'en sortir. Là, deux versions. Alors, Pélage contre Augustin. Pélage, dont à nouveau, Michel Onfray l'a rappelé, tout le monde disait que c'était un type bien. Voilà, un hérétique, mais qui était quelqu'un de moralement remarquable. Pensait que nous étions capables de nous sortir des situations difficiles de l'existence par nos seules et propres forces, à coup de volonté. Saint-Augustin, beaucoup plus pessimiste sur la nature humaine, disait nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pas très compliqué de laïciser, vous voyez, ou de séculariser. Quand on est dans une situation difficile, est-ce qu'on essaie de s'en sortir à coup de volonté, par ses propres forces, ou est-ce qu'on appelle à l'aide? Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une belle résurgence de pélagianisme.
Voilà, c'est ça. Alors, parce que Saint-Augustin, voilà. En un premier temps, c'est lui qui a gagné, quand même.
C'est lui qui a gagné. C'est pour ça qu'on dit Saint-Augustin et pas Saint-Pélage. Mais il y avait un monde possible, ça a été rappelé par Michel Onfray, où on disait Saint-Pélage et Augustin. Hein, mais bon, c'est Saint-Augustin qui a gagné. Le pélagianisme, vous voyez, chaque fois dans l'histoire des idées, qu'il y a une conception un peu trop optimiste de la nature humaine qui se fait jour, comme peut-être à la Renaissance ou aux Lumières, du point de vue de l'Église catholique, ça peut être lu comme une résurgence de pélagianisme. Mais alors, ce que je disais là tout à l'heure, c'est que je crois qu'aujourd'hui, alors ça pour moi c'est spécialement frappant, on en connaît une belle de résurgence de pélagianisme, c'est le développement personnel. Alors,
le self-made man, à Trump alors, aussi, j'ai pensé
ouais,
à Trump.
Tout à fait, oui. En anglais, une des expressions pour dire développement personnel, c'est self-help, hein, s'aider soi-même. L'homme qui célèbre et glorifie son autonomie, qui se fait tout seul et qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est, je crois que ça nous travaille pas mal aujourd'hui.
Y compris sur le plan institutionnel ?
Alors, je pense qu'il y a des institutions qui pêchent par pélagianisme. Là, je vais faire quelque chose de sans doute pas très populaire.
Je vais
défendre les cabinets d'audit, en fait. Non, il me semble que l'Église catholique a pêché par pélagianisme. Alors, si le pélagianisme, ça consiste à refuser d'appeler un secours extérieur, l'Église catholique a été prise dans la crise épouvantable de violences sexuelles qu'on connaît, et pendant très longtemps, elle a essayé de régler ça en interne, en fait, en faisant appel à des prêtres, alors qu'étaient sûrement des gens de bonne volonté, mais le fait est que ça n'a pas marché. Et puis un jour, alors heureusement, il y a eu cette fameuse commission sauvée, donc où l'Église a dit bon allez, seul on n'y arrive plus. On a besoin d'aide, on va être un peu plus augustinien. Et alors, ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais je pense que ça a quand même, cette commission, permis de prendre la mesure de l'ampleur de la catastrophe et de commencer timidement à mettre en place quelques mesures pour s'en sortir. Et donc, je pense que là, on a eu une forme de pélagianisme institutionnel de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'institution même qui a condamné le pélagianisme. Vous voyez, c'est pas parce qu'on condamne une hérésie qu'on est prémuni contre elle, et que l'appel à un regard extérieur, donc non pélagien, a considérablement arrangé les choses. Je dirais la même chose, alors pour prendre un sujet, j'ai un peu travaillé sur les crises de couple, étant moi-même un homme marié, c'est un sujet qui m'intéresse et voire me concerne. J'ai été assez frappé. Pour un autre livre, j'ai rencontré des couples qui avaient connu des graves crises, alors ce qui est assez fréquent, et qui s'en étaient sortis, ce qui est moins fréquent. Et j'ai été frappé, alors je ne veux surtout pas dire que c'est la méthode miracle, mais de voir que les couples qui avaient réussi à surmonter des graves crises conjugales, c'était tous, alors ça, ils s'étaient fait aider. Au lieu de rester dans le huis clos du couple, à remâcher les rancœurs, les haines, etc., ils avaient suscité de l'aide extérieure, à nouveau, on pourrait dire du pélagianisme à deux, on essaye de régler ces problèmes de couple. Alors je parle des graves problèmes, hein, pas des petites disputes.
Ouais, alors j'arrive avec mes gros sabots, parce que comme vous dites par ailleurs, et ça ne m'a pas échappé, que la gauche française se comporte de façon pélagienne, qui pourrait lui venir en aide ?
Je redis d'où je parle, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. J'ai dit tout à l'heure que je parlais en tant que catholique, je parle aussi en tant qu'homme de gauche, je vote à gauche, je ne m'en cache pas. Voilà. Donc je pense que la gauche française, alors on a pu dire, il y a la gauche qui ne croit pas au péché originel, qui a une espèce de conception très optimiste de l'homme, et la droite qui ne croit pas à la rédemption, qui a une conception très pessimiste de l'homme. Moi, je suis un homme de gauche qui croit au péché originel, c'est-à-dire je pense que, bien sûr, il faut améliorer les conditions matérielles de vie des gens, et spécialement des plus démunis, et en ça, je suis de gauche, mais croire que par là, c'est-à-dire en mettant les gens dans des conditions de vie correctes, on réglera tous les problèmes et que le mal disparaîtra, ça me paraît une erreur anthropologique.
Alors, les hérétiques ont quand même été pour le moins maltraités au cours de l'histoire. Saint Augustin, lui, était pour que la réponse donnée aux hérétiques soit plutôt la douceur que la force.
Alors, au début de sa carrière, il a évolué, pas dans le bon sens. Alors, l'objet de mon livre n'est en aucun cas de justifier la façon dont l'Église catholique a traité, c'est-à-dire maltraité les hérétiques. Je crois que là, faut. Enfin, on peut toujours nuancer, finasser, mais je pense qu'il faut dire, voilà, c'était pas bien. Au début, on maltraitait pas les hérétiques, hein, c'est tardif, c'est plutôt au second millénaire qu'on s'est mis que les bûchers apparaissent, etc. Mais donc, les hérétiques, les maltraités, c'est très mal, il faut le dire. En revanche, donc, pas les hérétiques, mais les hérésies, les idées, ça, une idée, ça se discute. Ouais. Et on peut ne pas être d'accord avec elles.
Alors, un exemple bien connu de tout le monde, les cathares.
Le mot cathare, en réalité, provient de l'Antiquité et a été utilisé, alors finalement, assez peu au Moyen-Âge pour parler des hérétiques ou des personnes accusées d'hérésie en Occitanie. On le doit, en fait, à des auteurs, notamment des historiens du XIXe siècle, qui se sont trouvés face à la difficulté de nommer une hérésie et des hérétiques, entre guillemets, finalement assez peu palpables. Et devant une hérésie qui n'a pas eu de nom propre au Moyen-Âge, ils se sont tournés vers les traités anti-hérétiques et, parmi bien d'autres noms, ont choisi le terme cathare, qui, sans doute, sonnait assez fort et assez bien pour marquer les esprits, et c'est encore le cas aujourd'hui. La croisade contre les Albigeois est un conflit militaire qui a duré près de 20 ans, suite à un appel à la croisade lancé par le pape Innocent III en 1208, un appel à la croisade en bonne et due forme avec à la clé rémission des péchés pour les croisés comme en Terre Sainte. Et ce conflit débute avec la prise de Béziers et la prise de Carcassonne qui vont assurer à Simon de Montfort l'accession au titre de chef de la croisade et de vicomte d'Albi, Carcassonne, Béziers. Simon de Montfort, seigneur croisé, originaire de l'Île-de-France. Pendant près de 20 ans, les grands seigneurs méridionaux vont s'opposer à ces forces croisées, toujours renforcées en fait par des troupes fraîches au printemps, de siège en siège, de reconquête en reconquête. Finalement, le comte de Toulouse Raymond VII est obligé de capituler en 1229 face à la puissance capétienne. Le roi de France, longtemps resté prudent et neutre, s'ingère dans le conflit et y voit en fait l'occasion d'agrandir ses domaines jusqu'à la Méditerranée.
Denis Moreau, vous commenciez à le dire, les massacres, les bûchers, ça n'a pas été tout de suite. Il y a eu d'abord 1000 ans de christianisme sans cela, grosso modo, hein,
moins violent. Moins violent.
Moins violent, disons. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un tâtonnement, on pourrait même dire un capharnaüm. Il fallait d'abord interpréter les Écritures, savoir comment on se dirigeait.
Oui, vous savez, les premiers siècles du christianisme, c'est absolument fascinant, parce que c'est une religion. Alors on peut dire, il ne faut pas oublier, les premiers chrétiens sont tous des juifs. Je crois qu'on peut dire que le christianisme, c'est une hérésie juive qui a réussi, en fait. Évidemment, il y a les Écritures, ça fait une base, mais les futurs dogmes sont très peu précisés, donc ça part dans tous les sens. C'est intellectuellement absolument fascinant. C'est parfois très drôle, hein. Il y a des hérésies extrêmement pittoresques, mais c'est une espèce d'effervescence intellectuelle absolument prodigieuse, d'où se dégage petit à petit une orthodoxie qui écarte et marginalise les autres. Mais en ce sens-là, oui, ça donne un très bon exemple, je trouve, de la créativité assez extraordinaire de l'esprit humain.
Vous parliez des Juifs. Alors, il y a quand même, c'est un sujet plus que touchy, hein. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour en parler, mais tout de même, ça vaut la peine, c'est même essentiel de le soulever. Le peuple juif est considéré comme un peuple déicide, donc théologiquement parlant, et ça, vous l'expliquez, Denis Moreau, l'Église a déprécié ce peuple et sa religion. Et il y a là, il y a quelque chose dans l'anti-judaïsme premier qui a préparé en quelque sorte l'antisémitisme que l'on a connu après.
Alors oui,
donc, dire comme ça
renvoie à une hérésie bien particulière, oui. Celle du monsieur qu'on appelle Marcion, c'est un des premiers hérétiques, oui, au IIe siècle, donc c'est un chrétien. Oui, mais à nouveau, les premiers chrétiens sont des juifs, et une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du judaïsme. Mm-hmm. Et lui, son option, c'est table rase. Il dit, voilà, le judaïsme, il va même jusqu'à dire qu'il y avait deux dieux. Le dieu des juifs et le dieu des chrétiens, que le second doit remplacer celui des premiers. Et donc, par exemple, dans la Bible, il proposait de supprimer carrément l'Ancien Testament, donc toute la partie commune aux juifs et aux chrétiens. Donc c'est quelqu'un qui a manifesté une forme, on pourrait dire, d'anti-judaïsme. À l'époque, il n'y a pas d'antisémitisme racial, hein, comme on l'a connu. Mais il a très tôt été condamné comme hérétique, mais en revanche, cet anti-judaïsme, cette idée que le christianisme avait annihilé le judaïsme que défendait Marcion, c'est quelque chose qui a traîné très très longtemps, je pense, jusque dans les années 1950, hein, dans l'Église catholique. Donc il y a eu, ça c'est très net, une forme d'anti-judaïsme que l'Église n'aurait pas dû développer, puisqu'elle l'avait condamné, mais par lequel elle s'est laissée contaminer. Je ne suis pas historien. Dans quelle mesure cet anti-judaïsme théologique a-t-il préparé l'antisémitisme racial ?
La question vaut la peine d'être posée.
C'est sûr que ça a probablement facilité les choses. Oui.
Marie-Lucas, alors je voudrais qu'on en revienne à votre chouchou, vous permettrez que je l'appelle comme ça, Antonio Gramsci, donc membre fondateur, je le rappelle, du Parti communiste italien, mis en prison par Mussolini, qui a donc écrit beaucoup en prison. Pour lui, est-ce que le marxisme, pour Gramsci, donc, est-ce que le marxisme s'inscrit au fond dans une histoire des hérétiques italiens ?
Absolument. Disons que le marxisme est pour lui une étape dans cette histoire des hérésies assez particulière. Ça veut dire que pour lui, il y a une grande hérésie. Alors, je précise que Gramsci entend les hérésies au sens large, non plus dans le sens que Denis Moreau définit très, très clairement dans son ouvrage, celui de choix doctrinaux condamnés par l'Église et désignés comme tels. Mm-hmm. Avec Gramsci, et il n'est pas le seul, on assiste à un peu un élargissement de l'usage. Et on parlait tout à l'heure du vin blanc sur la viande, c'est un élargissement qui n'a fait que s'accroître. Et donc pour Gramsci, la Révolution française est déjà une hérésie, l'acte de naissance de ce qu'il appelle l'hérésie libérale. Et le marxisme, dans la continuité de ce mouvement, est la religion qui doit naître de cette hérésie libérale.
Ben j'allais vous poser la question, il conçoit un peu le marxisme comme une religion.
C'est ça, mais en un sens très particulier, ça veut dire que il ne s'agit pas de simplement faire une analogie et dire que parce que il y a une vision du monde totalisante, une institution, etc., c'est la même chose. Disons que lui, il se pense il pense sa conception du monde, ce qu'il appelle la philosophie de la praxis, c'est sa manière de désigner le marxisme, comme une version plus réussie de ce qu'a été le catholicisme en Italie. Ce qui l'intéresse, et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux termes de religion et d'hérésie, et ça c'est assez inattendu, c'est le modèle qu'a représenté l'Église avant la contre-réforme, avant le concile de Trente. Donc l'Église médiévale est un modèle positif pour lui, c'est ce modèle d'une Église où les hérésies sont encore, donc la demande populaire de renouveau, c'est comme ça qu'il interprète les hérésies, sont encore assimilées par l'institution. Un exemple, c'est le courant franciscain, qui avait dans ses réformes les plus radicales au début quelque chose selon Gramsci, d'hérétiques, de dissidents, et que l'Église de cette époque a su réassimiler pour être plus en phase avec les aspirations sociales de l'époque. Pour lui, le marxisme doit réaliser ce type d'institution. Une religion qui admet l'hérésie, la fait prospérer, mais en même temps la tempère et l'assimile. Et c'est ce mouvement, cette dynamique que Gramsci essaie de formuler. Et l'Église catholique, l'histoire de l'Église catholique, lui sert de terrain de réflexion à ce titre.
Et le sort entre socialiste et catholique italien est en quelque sorte lié. Il y a aussi quelque chose qui fait tenir une société ensemble, qui peut être à la fois, qu'on peut trouver dans le catholicisme et dans le marxisme. C'est un peu ça, ou je me trompe complètement?
Si, alors la notion clé dans tout ça, c'est ce qu'il appelle, lui, l'histoire des intellectuels. Une histoire des intellectuels au sens large, parce que Gramsci se détache de l'intellectuel au sens traditionnel.
Il n'aime pas trop, hein, les intellectuels.
Alors, ça dépend lesquels.
Oui, ça dépend lesquels.
C'est-à-dire qu'il fait une distinction qui est très importante, c'est entre intellectuel traditionnel, c'est le philosophe comme... il y a un philosophe polémique contre un philosophe de l'époque, Benedetto Croce, qui est aujourd'hui un peu oublié, et qui se croit descendant d'Aristote, et qui pense pouvoir être en dialogue direct avec Aristote, alors qu'en réalité, il est lié à l'entrepreneur, à la famille... à une famille d'entrepreneurs et à des intérêts économiques locaux qu'il n'explicite pas. Pour lui, l'intellectuel organique, voilà, donc à l'opposé de l'intellectuel traditionnel, il y a l'intellectuel organique qui est en prise avec les rapports de force sociaux et qui connaît sa place dans ces rapports.
Il n'aimait pas, au fond, les élites athées, en quelque sorte, non ?
Alors, la question n'est pas qu'elle soit athée ou non, mais qu'elle soit détachée de la demande populaire. Donc, pour lui, ce qui importe, voilà, c'est de susciter des intellectuels, qu'ils soient religieux, qu'ils soient chrétiens ou pas, mais qu'ils soient capables d'entendre et d'élaborer une demande populaire plus confuse, moins élaborée théoriquement.
Et quelle idée et quelle représentation il a de la laïcité ?
Alors c'est un vaste sujet, parce que c'est un sujet peu connu de la réflexion de Gramsci, mais il y a une vraie réflexion sur la laïcité qui en partie se réfère à la France. En France, on est très fiers de notre modèle de laïcité à la française, et Gramsci lui rend hommage, le modèle révolutionnaire d'une laïcité de l'État, etc. C'est un modèle auquel il se réfère, mais dont il voit aussi certaines limites. Il voit un universalisme concentré entre les mains de l'État et qu'il dit volontariste. Lui propose de chercher, dans cette histoire des hérétiques italiens, une demande de laïcité autochtone. Voilà, il propose de chercher une voie italienne à la laïcité, en quelque sorte, à travers ces élans il pense l'hérésie de Socini, qui est un hérétique de la Renaissance, qui était à la recherche d'une version plus humaine du Christ, très inspirée par l'humanisme de la Renaissance. Voilà, toute cette demande d'humanisation du christianisme, pour Gramsci, c'est déjà un germe d'une conception italienne de la laïcité.
Denis Moreau, on voit bien, à écouter Marie-Lucas et à la lire aussi, qu'on a tort quand on a reproché à Gramsci son ignorance grossière de la spiritualité chrétienne. En fait, il connaissait ça très bien.
Je crois, oui. Alors, moi, en lisant le livre de Marie-Lucas, je me suis dit, en fait, Gramsci, c'est un hérétique, c'est un marxiste hérétique par rapport au marxisme dominant de son époque, qui est celui de la Troisième Internationale, chapeauté par Moscou. C'est quelqu'un qui fait un pas de côté ou qui se pose comme dissident, donc je trouve ça, on peut lui appliquer la catégorie qu'elle lui-même a donnée. Après, le petit point sur lequel moi j'arrive pas à être complètement d'accord avec lui, c'est cette idée que voilà, les hérésies sont des germes, hein, vous avez prononcé le mot plusieurs fois, donc des idées encore inabouties et qu'il appartient au marxisme de porter à la pleine lumière. Alors c'est la philosophie du progrès du marxisme, avec ce qu'elle a peut-être d'un peu naïf, hein, à nos yeux de post-moderne. Moi j'ai l'impression que les hérésies, en fait, dès leur formulation, elles sont très claires, et que c'est sous ces formes-là qu'elles réapparaissent aujourd'hui. Donc, mais je crois, alors peut-être en ça j'ai du mal à être marxiste, je ne crois pas tellement à un progrès linéaire et continu de l'histoire. Moi, voilà.
Vous avez employé le terme « croire ».
Bah oui, parce que là aussi je ne suis pas marxiste, je ne fais pas du socialisme scientifique, donc je suis conscient de la précarité de mes hypothèses ou de mes interprétations.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo, vous écoutez.
C'était Nounsat Arabit. Elle s'appelle Albertine, elle est sœur Albertine, et elle est influenceuse.
Il y a quand même eu un moment assez précis où en fait j'ai compris que dans la vie il y avait deux chemins. C'est Saint Augustin qui nous parle de ça. Il y a une voie qui est celle de l'amour de soi qui conduit à l'oubli de Dieu. Et puis l'autre chemin, c'est celui de l'amour de Dieu qui conduit à l'oubli de soi, au don de soi. Et pour moi, c'était clair que c'était cette vie-là qui allait me rendre heureuse. J'avais envie d'aimer Dieu pour me donner et que c'était dans la vie religieuse que ça allait se vivre pour moi.
Pourtant, enfant, vous n'aviez pas eu d'attirance particulière pour la religion. Vous disiez même que vous vous ennuyiez à la messe.
Oui, alors il y avait quelques figures de saints qui me parlaient, justement Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre. C'était des modèles qui, quand même, il y avait quelque chose qui me donnait envie chez eux. Mais non, c'était pas tout tracé en tout cas.
Sœur Albertine, au micro de Léa Salamé. Sœur Albertine qui œuvre sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une hérésie pour vous, Denis Moreau, les réseaux sociaux?
Non, c'est un fait. En soi, ça n'est ni bien ni mal. Après, enfin, moi, je commence à avoir un certain âge, donc je vois cette jeune génération d'influenceuses et d'influenceurs catholiques sur les réseaux sociaux. C'est sans doute très bien. J'ai deux petites réticences. C'est le caractère étriqué du format. C'est-à-dire, voilà, souvent, je pense que quand on parle de religion, ce sont des thèses un peu compliquées. Il faut prendre son temps pour s'expliquer. Et donc, quand on a affaire à un tweet ou un truc sur X de secret, 240 caractères, c'est ça. Je suis pas sûr qu'en 240 caractères, on puisse beaucoup faire de la bonne théologie. Là, j'ai quand même une forte réticence. De ce point de vue-là, j'aurais peut-être une petite tendresse pour Facebook. On peut encore mettre du texte, mais c'est un réseau de vieux, hein, ça, c'est clair. Et puis, après, les réseaux sociaux, alors, ça pose le problème d'une vieille hérésie qui est la gnose. Hein, la gnose.
Alors, expliquez-nous ce que c'est que la gnose.
Très rapidement, la gnose, bon, c'est deux mots, c'est très, très compliqué. Je retiens un seul trait de la gnose.
Vous arrivez à le faire en deux mots.
Un seul trait de la gnose, grosse méfiance vis-à-vis de la matière, tenue pour mauvaise, et tout misé sur l'esprit. Voilà. Alors, vous voyez, ça, j'ai l'impression que... On en a encore des résurgences dans certaines injonctions qui nous sont faites à dématérialiser pas mal de secteurs de nos vies. Moi, j'ai vécu ça en tant qu'enseignant. Hein. On m'a fait faire des cours à distance pendant les confinements et la Covid. Il le fallait bien, mais après, on m'a expliqué qu'il fallait continuer. Et quand j'ai vu les dégâts que l'absence du face-à-face des corps, comme dans un cours qui se passe en vrai, faisait sur les étudiants, je me suis dit que c'était pas une très bonne idée. Les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Hein. Vous voyez, là, nous sommes face-à-face dans un studio, je vous vois, vous avez des mimiques et tout, donc nous communiquons
en même temps que je parle,
nous communiquons par le corps. Et c'est très important. Sur les réseaux sociaux, on communique quasiment d'esprit à esprit, donc c'est le rêve du gnostique, hein, Philippe, plus de matière, on voit la catastrophe que ça donne, c'est-à-dire une foire d'empoigne invraisemblable.
Oui, justement, alors à propos de cette foire d'empoigne, parce que en fait, il y a quelque chose qui est probablement assez absent des réseaux sociaux, c'est le pardon. Et alors, le pardon, qui a, on peut dire, mauvaise presse plutôt à l'heure actuelle, pour certains, c'est quelque chose d'absolument impossible. Qu'est-ce que vous en dites là? C'est une hérésie?
Alors ça, là, à nouveau, bon, évidemment, c'est un peu mon dada, mais moi, ce sont des choses qui se sont déjà jouées il y a 1500 ans. Hein. C'est une hérésie qu'on appelle le novatianisme, donc de Monsieur Novatien. La question.
Donc c'est le fait que certaines fautes sont trop graves.
C'est au moment des persécutions. Pardonné. En fait, au moment des persécutions, il y a des chrétiens qui ont renié leur foi. Mmh. Je pense que j'aurais fait la même chose. Je suis pas un héros, hein, donc pas de problème trop avec ça. Et puis les persécutions, une fois finies, ils ont demandé à revenir dans l'Église. Et là, il y a eu une ligne intransigeante, Novatien disant non, pas de pardon, pas possible, et puis une ligne plus conciliante, Saint-Cyprien qui a dit si, alors avec des procédures de pénitence, etc., mais on peut pardonner, donc ça pose la question de la possibilité du pardon. Moi, j'avoue, alors, j'essaie de pas condamner la modernité, j'ai de la joie à être moderne, mais je suis quand même un petit peu inquiet par la crise de l'idée de pardon que nous connaissons. Vous voyez, c'est ni pardon ni oubli, là, on voit ça un peu à propos de fautes, alors on comprend à propos des fautes très graves, mais à propos de fautes aussi qui sont souvent un peu moins graves et que nous avons tendance à considérer comme impardonnables. Moi, j'ai l'impression qu'on peut pas vivre sans pardon. C'est-à-dire que je pense, en vous parlant, à ma vie de couple, à ma vie de famille, s'il n'y avait pas eu à un moment donné des pardons donnés ou reçus, ça aurait explosé. Et donc, vraiment, le pardon, c'est une sorte de condition de possibilité de la vie collective. Et voir qu'aujourd'hui, comme vous le dites, le pardon a si mauvaise presse, ça, pour moi, c'est un peu inquiétant sur... nos capacités à continuer à vivre en petite collectivité comme un couple ou des familles ou en plus grande collectivité comme une nation.
Alors on parle d'aujourd'hui, Marie-Lucas, Où en est-on avec, avec Antonio Gramsci qui, on sait qu'il a influence. Dans les années 70, il a eu une espèce de enfin, comme beaucoup de gens s'y sont intéressés. En France, on pense à Foucault, on pense à des gens comme Bourdieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il exerce encore une influence ou peut-être une popularité? Je ne sais pas comment il faut dire les choses.
Tout à fait. Alors, influence, c'est difficile à évaluer. Gramsci est un auteur qui a eu une immense influence, notamment en Italie, sur l'histoire du communisme italien, sur la vie politique italienne. Depuis quelques décennies, cette influence s'est un peu étiolée, on a cessé de le lire, mais on a assisté assez récemment à un regain de popularité, d'engouement pour Gramsci, notamment à droite. Donc le ministre de l'Éducation italien a publié un livre sur Gramsci récemment.
Voilà, mais c'est quoi, par opportunisme? Pourquoi il a fait ça? Ou par intérêt réel? Je ne sais pas.
Gramsci est un auteur subtil, Denis Moreau le disait tout à l'heure, à qui on a réussi à faire dire beaucoup de choses. Et cette manière qu'il a de nuancer le matérialisme vulgaire en redonnant son importance à la culture, au rapport de force idéologique et non plus seulement matériel, a pu le rendre attrayant pour des anti-marxistes, même si ça suppose d'effacer tout un aspect de sa pensée, c'est-à-dire que l'économie reste déterminante en dernière analyse. Mais voilà, ce côté, cet intérêt pour la culture, pour la littérature, pour les superstructures en jargon marxiste, ça l'a rendu attrayant à droite notamment.
En tout cas, c'était un sacré bonhomme. Et alors son regard, quand on a vu une photo une fois, on ne l'oublie pas, il avait un regard noir absolument.
Tous ceux qui l'ont connu parlent de ce regard pétillant et vivant.
Ben moi, je suis trop jeune pour l'avoir connu. Il faut bien être trop jeune pour quelque chose dans la vie. Denis Moreau, le meilleur de la religion, c'est qu'elle engendre des hérétiques. C'est Ernst Bloch, philosophe allemand, qui disait ça. Vous êtes d'accord?
Pas complètement, mais je dirais que c'est un bon côté de la religion qui est dans un... Alors, des hérétiques, à nouveau, les personnes, n'importe peu, c'est des aspects intéressants de la religion qui engendre des hérésies. Oui, ça, tout à fait.
Et on arrive donc, à, comme vous, à concilier le libre-arbitre et la préordination de Dieu. C'est possible, c'est compatible?
Alors, je crois qu'un des aspects, si on termine là-dessus, de la doctrine catholique, c'est qu'elle est profondément paradoxale, c'est-à-dire qu'elle essaie d'affirmer simultanément des choses en apparence contradictoires, par exemple qu'on est totalement prédéterminé par Dieu et que nous sommes libres. C'est pas compliqué, la doctrine catholique, c'est paradoxal. Pour faire une hérésie, il suffit de simplifier. On choisit une des deux thèses en présence.
Et il faut lire votre livre, parce que là, vous ne simplifiez pas. Merci, Denis Moreau. Tous hérétiques, c'est une question que vous posez sur l'actualité de quelques débats chrétiens. C'est paru aux éditions du Seuil. Et quant à vous, Marie-Lucas, religion et hérésie dans la pensée d'Antonio Gramsci, c'est chez Classique Carnier. Merci à tous les deux.
Merci.